Amen.
Bienvenue à tout le monde.
Amen.
Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est vraiment quelque chose de pratique. Vous allez voir, c'est du pratique. Et la différence, ce qui va faire la différence dans votre couple, c'est, bien sûr, il faut connaître ce qu'on va voir ce soir, mais c'est vraiment si vous allez le mettre en application ou pas. C'est vraiment là que ça va se jouer. Peut-être que ce soir, ce que vous allez entendre, vous allez dire, ouais, c'est chouette, c'est super, très bien. Ok. Mais la difficulté, elle est dans l'application. Le comprendre, ça va être facile. L'appliquer, ça va être autre chose. Et donc ce soir, ce que je vais essayer, c'est vraiment de vous enthousiasmer pour changer votre façon d'être dans le couple, mettre des nouvelles choses en place, parce que ce que vous allez voir ce soir, c'est fondamental pour votre couple. Le couple peut être en mauvais état. Le couple peut être aussi en bon état. Le couple peut aller pas trop mal. De toute façon, dans quelques états que vous êtes, ce que vous allez entendre ce soir peut changer radicalement votre couple. Radicalement. Si vous mettez en application ce que vous allez voir ce soir, je vous garantis que votre couple ne sera plus le même.
Amen.
Amen.
Alléluia.
Amen. Donc, ce qu'on a vu, on va prendre 5 minutes ce soir pour juste résumer quelque chose. On ne peut pas tout revoir. Mais on va prendre 5 minutes pour revoir 2-3 choses de la semaine dernière et puis pour enchaîner. Donc, j'ai vu, la semaine dernière, on a commencé par métamorpho, qui est penser différemment, agir différemment et qui fait référence à ce verset de la Bible dans Romains 12:2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Hein? Et l'intelligence, le mot grec qui est là, c'est la façon de concevoir les choses, la façon de penser les choses. Et donc, quand Paul parle, il dit que vraiment, quand vous êtes dans le royaume des cieux, même si vous êtes encore sur la terre, eh bien, il y a une manière d'agir, il y a une manière de penser qui est complètement différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et c'est évident que ça, c'est valable pour le monde, c'est valable surtout, principalement, pour notre couple. Ce qu'on va voir encore ce soir, comme on a vu la semaine dernière, c'est d'être capable de dire, Seigneur, il faut qu'on revoie les choses, il faut qu'on repense les choses, il faut qu'on agisse différemment. On ne peut plus continuer comme ça, maintenant qu'on sait comment il faut faire.
Amen.
Il faut que les deux, bien sûr, il faut que les deux le veuillent, c'est évident. Mais si vous commencez par des petits pas et que vous commencez à modifier votre façon d'agir et penser différemment, je vous assure que vous allez voir des progrès très, très rapidement.
Amen.
Très rapidement. Et le Seigneur sera avec vous. Amen.
Amen.
Le couple, on a vu, c'est une personne. D'accord ? Le couple, c'est important. Quand Dieu dit, tu vas quitter ton père et ta mère et tu vas former quelque chose de nouveau, tu vas former quelque chose qui n'existe pas, c'est une entité, à lui tout seul. Le couple est à lui tout seul. Et c'est important de comprendre que le couple est une personne. Pourquoi ? Parce que, étant une personne, eh ben, il va falloir l'entretenir. Il va falloir lui apporter des choses à cette personne-là. Hein ? Et c'est important de comprendre que, dans le couple, ce n'est pas moi qui compte. Je travaille pour mon couple. Je fais pour mon couple. D'accord ? Et quelquefois, je vais devoir, moi, me faire tout petit pour que mon couple vive. À tel point que quand on est en difficulté dans une conversation, quand on est en difficulté dans un échange, en fait, si quelqu'un a raison et écrase l'autre, les deux perdent parce que c'est le couple qui perd. Vous comprenez ça? On travaille pour le couple. Et c'est important d'avoir cette vision-là. Je travaille pour mon couple. Je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour mon couple. Et c'est important de rentrer dans cette vision-là. Et donc, à partir de là, on va devoir le chérir, le couple. On va devoir l'entretenir. Il est important. Il a de la valeur. Et surtout, il est la base de notre famille. On ne le pense pas toujours, mais si le couple s'effondre, c'est notre famille qui s'effondre. C'est nos enfants qui s'effondrent. C'est pas que nous qui est en jeu. Hein, il n'y a pas que notre personne qui est en jeu. Il y a le couple. Et le couple, il soutient la famille. Et quand il y a un divorce, quand il y a séparation, on le voit, c'est tout qui s'effondre. Ça fait des dégâts.
Oui.
Ça fait des dégâts chez les enfants. Oui. Ça fait des dégâts même dans la famille proche. En fait, c'est comme un tremblement de terre. Et croyez-moi, qu'il faut mieux se battre pour son couple que d'affronter un divorce. Parce que vous ne savez pas, si vous n'avez jamais divorcé, vous ne savez pas les séquelles, les dégâts que ça peut faire. C'est à vie. C'est à vie. Moi, je suis passé par là. J'ai eu un divorce. Je peux vous assurer que personne n'y a échappé. Personne n'a été épargné. Moi, le premier. Ça m'a pris 2 ans pour me reconstruire. 2 ans. Et mes enfants, ils ont des séquelles. À vie. Et donc, faut bien comprendre que quand on se marie, c'est faut réfléchir avant. Parce que c'est un engagement. On va le voir ce soir. Et c'est du travail. On va travailler à cette personne-là. Mais il vaut mieux travailler pendant qu'on peut encore, pendant qu'il n'y a pas trop de dégâts, hein, pendant que l'édifice tient encore debout. Et bien, il faut mieux travailler que de se dire comme on fait maintenant, ben on s'entend plus, c'est pas grave, on divorce, c'est pas un problème. Non, non. Non, non, non. C'est psychologiquement si c'est un problème, ça fait beaucoup de dégâts. Donc on va travailler à cette personne. Et sans prendre en compte les besoins de ce couple-là, de cette personne-là, si on ne prend pas soin de ce couple-là, je suis désolé de vous dire, mais le risque, hein, c'est que ça tourne au cauchemar. Ça va tourner à la cohabitation. On est entre adultes ce soir. Moi, je peux vous dire que la plupart des couples que je rencontre, très peu vivent le couple comme Dieu l'a voulu. Et j'ai inclus les chrétiens dedans. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Parce qu'ils ne savent pas comment on construit un couple. Et ils l'ont fait comme ils ont pu. Et puis souvent avec le modèle des parents. Mais la plupart des couples, malheureusement, finissent en cohabitation. On se connaît, on sait à peu près où est-ce qu'on va. Toi, tu es bonne là-dedans, moi, je suis bon là-dedans. On fait de la logistique. Et puis, on reçoit les enfants de temps en temps. Et puis, les enfants sont contents. Hein, il y a la famille, tu vois. Mais on n'est plus amoureux. Ça se voit. Hein. On s'engueule la plupart du temps. Ça se voit. On se parle plus trop sur des sujets un peu délicats. Et puis, on vivote. Et on vivote. C'est pas le mariage. C'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à un mariage, un couple qui va se bonifier avec le temps. C'est le contraire. Plus on va être ensemble, plus on va avoir du plaisir à partager notre vie. On se connaît dans le sens, on se connaît dans notre intimité. On se connaît dans le sens que l'un prend soin de l'autre, l'autre prend soin de l'autre. On est bien ensemble parce qu'on soigne notre couple. Amen. Amen. Le sens du mariage, c'est que Dieu a créé le mariage afin que l'homme et la femme soient dans une relation intime, lui permettant d'exprimer au mieux son amour, de pouvoir recevoir l'amour de l'autre et ainsi de répondre à l'amour de Dieu. Le sens du mariage, c'est une question d'amour. Si vous enlevez l'amour, il n'y a plus de sens. C'est pour ça que si on n'entretient pas l'amour, il n'y a plus de sens au mariage. Parce que le mariage a été fait pour exprimer l'amour. Parce que nous avons été faits, Dieu, à la base, est amour. On a été fait à son image. Donc, on a été fait pour aimer et être aimé. Ça, c'est la base. Le reste, c'est de l'habillage. Et la base, l'essentiel, c'est que moi, je suis fait pour aimer et être aimé. Le reste, c'est de l'habillage. Et si je ne suis plus aimé, ou si je n'aime plus, je me tue à petit feu. Et je tue mon mariage à petit feu. Oui. Donc il faut bien comprendre que l'essence même du mariage, c'est l'amour. L'amour. Et on a vu la semaine dernière, pas n'importe quel amour. L'amour agapé. Parce que c'est là un changement de conception, un changement de pensée. Tant que tu n'as pas Dieu dans ta vie, eh ben, tu donnes ce que tu as. Tu donnes un amour, ce qu'on appelle en grec, filière. Seulement, cet amour-là, il est très limité. On va le voir ce soir. C'est pas l'amour qui va pouvoir répondre aux besoins de l'autre. Ça va le faire pendant 2 ans, maxi. C'est-à-dire le temps du coup de foudre, le temps de Eros. Eros est très puissant, mais Eros ne dure pas. Eros, petit à petit, il s'éteint. Et c'est Philéa qui prend la place. Mais Philéa ne répond pas aux besoins de l'autre. Et donc, l'être humain se retrouve dans un piège. Il nous faut une autre source d'amour, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et cette source d'amour, c'est agapé. Quand je vais à la bonne source d'amour, alors je prends ce que moi je ne peux pas, et en même temps que je bénéficie de cet amour-là, je donne cet amour-là aux autres, et je suis guéri dans cet amour-là.
C'est que Dieu qui peut faire ça.
Oui, c'est que Dieu qui peut faire ça. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière sur les définitions de l'amour. Ce n'est pas l'amour sentimental qui maintient le mariage, mais davantage le mariage qui soutient l'amour. Le mariage dans le sens de l'engagement. C'est parce que je me suis engagé que mon mariage va tenir le coup. Je me suis engagé à soigner mon couple, à faire le maximum pour mon couple. Et c'est cet engagement qui va faire que le couple va être solide. Mais l'amour sentimental, lui, on ne peut pas se fier à lui. On est trop fragile, on est trop sensible, on est trop blessé. Un amour sentimental, c'est un amour qui va faire comme ça. S'il ne fait pas comme ça. Et donc, un amour comme ça, des deux côtés, vous imaginez à quel moment tous les deux, moi je suis là, ah ben c'est bien, moi je suis là aussi. On va passer une bonne soirée. Mais oui. Mais sinon, on va vivre avec nos émotions. Et ça, ça ne remplit pas les besoins du couple. L'amour dans le mariage, c'est plus que des sentiments, c'est un engagement. Le sentiment, regardez un petit peu pour bien comprendre la différence entre l'amour que moi j'ai naturellement pour ma femme et l'engagement. Vous allez voir comment l'engagement est beaucoup plus fort. L'engagement fait des fondations solides. Le sentiment pense à soi, tandis que l'engagement pense à l'autre. Quand je suis dans le sentiment, je pense à moi. Comment je me sens? Je suis bien, je suis fatigué, je suis en forme, je ne suis pas en forme. Ça, c'est moi. Mais avec ça, on ne va pas loin. Mais l'engagement pense à l'autre. Je ne suis pas bien, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est moi, c'est mon problème. Mais l'autre ne doit pas en pâtir.
Ouais, ça ne doit pas être un baromètre.
Exactement. Le sentiment vise mon bien-être, tandis que l'engagement cherche le bien-être de l'autre. Le sentiment repose sur l'émotion, tandis que l'engagement repose sur une décision. Vous voyez, on n'est pas du tout au même niveau. Hein? Autant que le sentiment, il va aller un petit peu en haut, un petit peu en bas, il va être mouvant, ça va dépendre de mes humeurs, ça va dépendre de plein de choses. Alors que l'engagement, c'est une décision. J'ai décidé d'aimer. Et ça là, en étant branché à la source d'amour de Dieu, je vous le dis direct, c'est possible. Tout est possible à celui qui est en Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Parce que quelqu'un pourrait me dire, oh Bertrand, mais ça, ce que tu dis, c'est compliqué. Parce qu'il y a des fois, on est fatigué. Des fois, on n'est pas bien. Il y a des fois, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Dieu en toi te permet d'aller beaucoup plus loin que toi tout seul.
Amen.
Je ne dis pas que c'est parfait. Hein, mais je dis que, Seigneur, et on va le voir tout à l'heure en détail, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à soigner mon couple. Aide-moi à alimenter mon couple. Vous comprenez? Aide-moi, Seigneur, à ce que mon couple, il respire, il soit bien, que ça ne dépende pas que de mon état moral, que de mon état spirituel. Non, j'ai besoin de plus. Et on a besoin de plus si on veut que notre couple soit en forme, soit solide. Le sentiment sacrifie l'autre pour soi, tandis que l'engagement sacrifie le moi pour l'autre. Il y a quelque chose dans le mariage, et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant, parce que dans le mariage, il y a ce qu'on appelle, on va le voir dans l'autre définition, un don de soi. Je me donne à l'autre. Je ne prends pas seulement. Et puis après, une fois que j'ai bien pris, j'essore, j'ai bien essoré, je jette. Non, ça c'est le monde. Le monde, le mariage du monde, la philosophie du mariage du monde, c'est je prends quelqu'un, je vois quelqu'un, et je dis, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? C'est ça le mariage du monde. Mais le mariage en Christ, c'est je vois quelqu'un et je lui dis, mais qu'est-ce que moi, je peux lui apporter?
C'est différent.
C'est différent. Tu vois? Et on l'a vu la semaine dernière, il y a un parallèle avec Christ. Christ est l'Église. Hein? Christ, serviteur de l'Église. Christ a donné sa vie pour l'Église. Et moi, je donne ma vie pour ma femme. Et ma femme donne sa vie pour moi. Ça va dans les deux sens. Mais tu vois, il y a un sacrifice quelque part. Donc, c'est important. On va le voir tout à l'heure. Avec Dieu, c'est faisable. Mais parce que, en fait, moi, je quelque part, eh ben, c'est difficile, là. Oui, parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas. C'est un domaine où j'ai du mal à aller. Mais tu vois, avec cette mentalité, je vais dire, Seigneur, avec toi, c'est possible. Avec toi, je peux aller dans ce domaine-là. Tu vois ? Tout est possible avec le Seigneur. L'engagement ne veut pas dire que je fais abstraction de mes émotions. Il signifie que mon engagement domine sur mes émotions du moment. Les émotions représentent un petit peu la chair. Et l'engagement représente un peu l'esprit. L'esprit domine sur la chair. C'est plus la chair qui nous conduit, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui nous conduit. Et donc oui, j'ai mes émotions. Oui, mais oh, on se calme. L'esprit est au-dessus. Et donc, j'arrête de dire, ah, je peux pas ça. Ah non, ça, c'est pas possible pour moi. Ah non, ça, c'est trop fort pour moi. Non ! Arrête de dire ça. C'est pas ta chair qui domine sur toi. C'est l'esprit qui domine sur toi. C'est un travail. Mais c'est faisable. Et puis, c'est souhaitable. Ben oui, c'est souhaitable que ce soit pas nos émotions qui dominent sur notre mariage. Parce que sinon, ben, c'est la porte ouverte à tous mes dysfonctionnements et à tous les dysfonctionnements de ma femme. On ne construit rien avec ça. Donc il y a un travail, et on a vu la semaine dernière qu'il y a un parallèle entre comment je vois mon mariage et comment je conduis mon mariage, comment je me place dans mon mariage et ma croissance spirituelle.
Ouais, c'est ce que
j'avais dit. Les deux sont liés. Parce qu'en fait, le mariage va m'obliger à travailler sur moi. Il y a des endroits où... Ah, je suis bloqué. Et là, tu vois, si tu as cette relation avec Dieu, tu dis, Seigneur, là, je ne peux plus. Je suis bloqué là. Mais toi, tu me rends capable. Tu vois, quand la chair veut, tu vois, qu'il y a une bonne contrariété, quand tu as été bien piqué au vif, tac, tu vois, et que là, tu sens l'émotion qui monte là. Tu vois, et là, il faut aller plus loin. Il faut dépasser ça. Parce que sinon, on va où là? Si chacun fait la catastrophe, et bien là, j'ai besoin de Dieu pour dire non, Seigneur, je veux te ressembler, je veux être à ton image, et c'est là que la croissance se fait. On va le voir tout à l'heure, on va voir combien on a besoin du fruit de l'esprit, tout simplement. On a besoin du fruit de l'esprit, on a besoin de Dieu dans notre mariage parce qu'on est limité. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et le mariage, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais, par la grâce de Dieu, je peux faire en sorte que mon mariage soit beau. Je n'ai pas dit parfait, j'ai dit qu'il soit beau.
Dans un couple, excusez-moi, Bertrand, je vais vous dire, dans un couple, on est différent, ça c'est sûr. Et il y en a qui arrivent plus à dire pardon que d'autres. Oui. Et puis il y en a qui dans un couple, comment je peux expliquer ça, un peut aider l'autre à comme moi, de femme à femme, elle me reprend sur certaines choses, ouais. Pour te le dire ce soir, parce que j'ai l'esprit vif, ouais. Elle me dit non, tu vois là, tu devrais, ouais. Et ça, je pense que dans un couple, c'est important aussi.
C'est important. En fait, il y a une complémentarité, en fait, tu vois. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas bien le mariage, on est encore avec notre esprit du monde et on veut avoir raison, tu vois. Mais en fait, non, t'as pas raison. C'est ni l'un ni l'autre qui a raison. Il y a un peu de vérité dans chacun. En fait, on se complète,
ouais,
tu vois. Mais tu n'es pas supérieur à l'autre parce que tu penses différemment. Tu vois, parce que si on ne fait pas attention, on pense qu'on a toujours raison et qu'on est plus fort que l'autre. Non, t'as une approche différente. Et c'est, ensemble, c'est la complémentarité. Mais c'est aussi nos différences qui va faire qu'on va grandir. Parce qu'on ne grandit que dans la difficulté. Tu vois, faut pas rêver. Si c'est pas dur, on ne grandit pas. Écoutez, si tout va bien, tu n'as pas besoin de changer. Tu comprends? Il faut qu'il y ait de la résistance pour que je change. C'est ça la réalité. Et dans le couple, on est différent. Comme on est différent, on va rencontrer de la résistance. Mais c'est souhaitable.
Ah bon? Oui. D'accord.
Ben oui, c'est comme ça que tu vas grandir. Même si tu pleures au passage, même si tu viens te plaindre aux pieds du Seigneur, et pourquoi il est comme ça? Et pourquoi il est comme ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? En attendant, il y a un travail qui se fait.
C'est... Qui se fait pour celui qui est toujours, donc, toujours raison, et pour celui qui comprend la chose, mais ouais. Il faut qu'il prenne la patience.
C'est ça.
La patience. C'est
exactement. Exactement. On le voit pas toujours comme ça, mais c'est comme ça que le couple grandit. C'est parce qu'il y a. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la crise, d'accord. Mais comment je vais prendre la chose, tu vois. Si je veux pas, je résiste, je suis un rebelle. On appelle ça un cœur d'orphelin. Tu vois, je suis un cœur d'orphelin. C'est-à-dire que j'ai été élevé avec les blessures, avec tout ça. Je suis un cœur orphelin. Je me suis fait tout seul. J'avais pas. Voilà, on n'avait pas Dieu dans notre vie. Tu vois. Le cœur orphelin, c'est pas parce que j'ai eu des parents ou j'ai pas eu de parents. C'est parce que j'ai appris à vivre tout seul. Tu vois. Et donc, avec ce cœur orphelin-là, eh ben, on est des rebelles. Tu vois. Et quand l'autre est devant toi et que ça fait comme un mur, tu vois, tu tapes la tête dessus. Mais à un moment, tu as trop mal. Il faut trouver une solution. Parce que tu en as marre de taper le mur, tu vois. Mais tant que tu tapes le mur, c'est que tu es encore de la résistance. Tu n'es pas encore arrivé au bout. Encore, vas-y. Tu n'as pas bien compris les choses. Mais quelquefois, tu sais, c'est comme les Hébreux dans le désert. 40 ans à tourner en rond. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur voulait leur dire. Et quelquefois, dans le couple, c'est pareil. Tu vas juste dire, mais qu'est-ce qu'il est têtu, l'autre. Sans voir que toi, t'es têtu aussi. C'est juste que tu vois, mais pourquoi tu dis non, là? Pourquoi tu dis non? Je ne suis pas comme toi. Tu es différent de toi. Oui, mais tu devrais te dire oui, là, quand même.
Oui, c'est agaçant.
Mais c'est dans la résistance. C'est là que se fait le travail. Tu vois? C'est là que tu peux venir pleurer auprès de ton papa, venir dans les bras de ton papa, et tu peux lui dire, regarde comment elle est méchante avec moi. Regarde comment il est méchant avec moi. Et lui te comprend. Mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait.
Et voilà, et tu es plus orphelin. Il vient bien.
Allons un peu plus loin dans cet engagement. Mais pour vivre cet engagement et traverser les tempêtes, nous allons avoir besoin de nous brancher chaque jour. C'est pas une fois de temps en temps. C'est une relation intime avec Dieu qui va faire la différence. Si tu n'as pas de relation intime avec Dieu, je peux te dire que ton mariage, ça va être un enfer. Parce que là, la différence, là, tu vas la sentir tous les jours. Tu vas dire, je me suis trompé de mari. Mais c'est quoi le mariage? J'étais bien quand j'étais tout seul. Oh là, tu comprends? Parce que tu n'as pas bien compris ce qui se passe là. Tu travailles, et comme tu ne peux pas, tu es limité, reconnais que tu es limité, tu as besoin d'aller voir Dieu. Tu as besoin de te brancher tous les jours à la source.
Merci Sauveur.
On se branche tous les jours à une autre source qu'on appelle agapé. Un amour qui vient du cœur de Dieu et qui est basé sur une décision d'aimer qui vient de notre engagement. Décider d'aimer, engagement. C'est ça, la réponse, elle est là. J'ai décidé d'aimer, même quand je n'ai pas envie. C'est mon engagement et je suis à la bonne source pour pouvoir répondre à cet engagement. C'est ça la clé. La clé, elle est là. Engagement, décider d'aimer, même quand j'ai envie de lui foutre des claques, mais je peux répondre à mon engagement parce que je suis branché à la bonne source. Amen. Et là, tu es vraiment serviteur de Dieu. Là, tu es vraiment disciple de Dieu. Là, tu es vraiment, tu as un papa. Là, tu es vraiment dans le cœur de Dieu. Tu comprends? C'est pas que de venir à l'église, là, et puis de lever les bras. Ça, c'est bien. Alléluia, il faut venir mais tout le temps. Mais c'est bien, l'église. OK? Mais là où on va voir, c'est quand ça fait mal. Parce qu'à l'église, on se fait pas beaucoup mal. À l'église, on se fait pas beaucoup mal. Il y a des beaux chants. Alléluia, on est bien. Franchement, il n'y a pas trop de résistance. Bon, de temps en temps, il y a une petite pique du pasteur, mais c'est pas le pasteur, c'est la parole de Dieu qui te reprend. D'accord? Amen. Mais on ne souffre pas trop à l'église. Hein. D'accord? C'est quand on sort de l'église qu'on commence à souffrir. Quand on rentre dans la voiture. Et puis, on reprend notre conversation du début. On avait juste fait une parenthèse. Et alors, on reprend où on en était. C'est là que ça fait mal. Et c'est là que tu vois où est-ce que t'en es avec Dieu. Est-ce que c'est du cinéma que tu fais là tous les dimanches? Ou est-ce que tu vis vraiment le Seigneur et tu dis, et là le Seigneur t'a parlé? Le Seigneur est même en train de te dire, tu ne devrais pas dire pardon à ta femme ou à ton mari. Là, tu as toute ta chair qui se met qui pousse en avant et qui dit, oh non Seigneur, non, j'ai pas envie. Non, c'est lui qui doit d'abord faire le premier pas. Non, tu sors de là. Tu dis, Seigneur, je vais faire toute ta volonté. Oh oui, Seigneur, je te donne mon cœur. Oh Seigneur, tout pour toi. Arrivé dans la voiture. Oh, pas trop d'accord avec ça. Et on rigole. Mais c'est ça qui nous arrive. C'est ça. Si on avait l'humilité, on dirait, Seigneur m'a parlé pendant le culte. Je te demande pardon. Mais notre orgueil. Ça va? Oui, ça va.
Ça va, moi je me souviens quand on partait à l'église. Non, mais c'est les témoignages. Non, mais.
Ah,
oui, c'est les
témoignages. Ah, tiens, là.
Vas-y, Anna, continue.
Vas-y, Anna. La résistance. Vas-y, Anna. Tu as la parole ce soir, il y a du monde avec toi.
Je disais, non, mais c'est les témoignages que j'ai vécu. Avant, il y a quelques années à ça, quand je partais à l'église, j'avais horreur d'arriver en retard. Ça déclenchait.
Bienvenue au club.
Ça déclenchait.
Oh, bienvenue au club. Pour tout ce que ça dégageait.
Et puis maintenant, tu as travaillé dessus. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux.
Ah, je t'aime. On est dans le même bateau. On souffre ensemble.
Il a dit que Dieu l'a mis avec Erland pour lui apprendre c'est quoi patience.
C'est vrai. Moi j'ai dit à Erland, tu sais, Dieu m'a mis avec toi une formation accélérée. Formation accélérée de la patience. Tu vois, de la patience, de ne plus avoir honte, d'être en retard, tu vois, de dire ben, je suis comme je suis, mais je suis plus tout seul, tu as deux. Et puis moi aussi j'ai mis du fond, tu vois. On passe un cap, tu vois, on arrive, on essaye d'être à l'heure, mais si on n'est pas à l'heure, on ne peut pas une coche, tu vois. Bah, on apprend. Tu vois. On est plus sur le klaxon.
Parce qu'avant, moi, t'as l'équipe, on est là, ici,
il y en a. Ouais, l'association de la patience, on va le voir. Ne t'inquiétez pas. Et la question, à quelle source te branches-tu chaque matin? À quelle source? Tu vois, on n'est pas en train de parler de religion. Je ne sais pas si vous réalisez. On n'est pas en train... Est-ce que tu lis ta Bible tous les matins? Est-ce que tu fais ci tous les matins? Est-ce que tu fais ça tous les matins? On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler d'une communion avec Dieu. D'une relation. Tu peux partir de chez toi et puis ne pas avoir cette culpabilité religieuse en disant « Oh, j'ai pas eu le temps de lire ma Bible ce matin. Oh là là, c'est pas bien. » Mais c'est pas grave. Là, dans la voiture, prie ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je ne pars pas de la maison sans que tu m'aies rempli de ton esprit. Parce que je vais affronter des choses difficiles, des collègues, les choses que je vais rencontrer. Est-ce que je vais encore être serviteur de Dieu ce matin? Tu comprends? Comment je vais réagir? Parce qu'il y a le couple, et puis après, il y a des relations avec les autres. Mais tout ça, c'est pas séparé, quoi, tu comprends? On est serviteur de Dieu. On est disciple. Et je ne peux pas partir au travail sans... Ou alors je suis fou. Ou alors j'ai rien compris. Tu vois, si je pars au travail sans avoir être branché à la source, et puis là, ça va mieux. Et je pars tout seul, sans armes, à poil. Mais je vais me faire laminer. La première réflexion. C'est quoi le problème?
Oui,
c'est ça, la première réflexion. Je vais me la prendre. Je vais dire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème là. Mais oui, je vais être charnel. Pourquoi? Parce que j'ai pas mon bouclier. J'ai pas mon bouclier d'amour. J'ai pas le bouclier qui fait que je suis dans le cœur de mon papa. Non, je suis parti avec mon épée tout seul comme un grand. Et je me fais laminer. Et puis j'ai pris des claques toute la journée. Et quand je rentre le soir à la maison, je suis avec ma femme. Comme j'ai pas pris ma. Ma femme. Et oui. Irritabilité, fatigué, tu vois. Mais t'es où là? T'es où? T'es religieux, mon gars. Ouvre tes yeux.
J'ouvre ma bouche encore. Alors, je pars de la maison Justine, non, c'est pas grave, j'ai pas eu le temps avec toi. Garde-moi. Et puis, un bonhomme, je sais pas qu'est-ce qu'il a dans sa voiture, je suis dans ma voiture, il fait un bras de mien comme ça, il fait une... Et moi, pam, 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 avec le klaxon, un pèse de connard. Et puis j'ai dit, oh là, Erland, vaut mieux que tu te poses dans un petit parking avant que tu ailles faire le truc là, parce que c'est plus bon du tout là. Moi, et puis après, j'ai dit, attends, je vais te dépasser, je vais te montrer moi c'est quoi me faire un bras d'honneur. Je me suis posée au fait, j'ai dit, Seigneur, mais là où je vais là? En plus, j'allais prêcher la parole.
L'esprit doit dominer sur la chair. Mais pour que l'esprit domine sur la chair, il faut être branché à la bonne source. C'est chaque instant de notre vie. C'est pas une fois de temps en temps. C'est tous les matins, j'ai conscience que, mais sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. C'est ça la réalité, c'est de mettre en application la parole de Dieu tous les jours d'un côté pratique, pas d'un côté religieux, pas d'un côté culpabilisation. C'est se dire, Seigneur, sans toi, ma chair va prendre le dessus. Avec mon épouse, avec mon époux, avec le collègue, avec le patron, avec qui tu veux, ma chair va prendre le dessus si t'es pas avec moi.
Bien sûr.
Tu comprends?
Et j'arrive à l'église, on me dit, tu sais qui tu es, Erland, tu es amour, tu es tendresse, je t'appelle tendresse. Je dis, ah mon Dieu, putain.
Tous les soirs, je prends mon chien, moi, là. Je prie dans la rue. Et tous les chiens vont dire amen. Tous les soirs, je viens dans la rue, mon chien.
Alors, voyons un peu plus loin. Allons un peu plus loin et voyons l'amour humain versus l'amour de Dieu. Mais regardez, vous allez comprendre que c'est une folie de ne pas être rempli de l'amour de Dieu. C'est une folie. Comment supporter l'autre? J'ai mis ceci. Dans le mariage, supporter l'autre n'est pas humain. C'est une vertu divine.
Oh, merci.
Et oui, regardez bien, regardez bien. L'autre, mais... En fait, on pourrait dire nous, hein, nous, d'accord. Regardez, j'en ai mis que quelques-unes. Hein. Allez, prenons les mécanismes de défense. Les mécanismes de défense, c'est tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit pour se protéger des autres. Tu vois. Donc, quand on est à deux, quand on n'est pas restauré à 100%, ben, on prend les mécanismes de défense en face. Tu vois. Donc, ça peut être de l'agressivité, ça peut être... je boude, je ne parle pas, un manque de communication. En fait, tout ce qui a fait que je suis arrivé à cet âge-là, et c'est tous ces mécanismes que j'ai mis en place pour me protéger des attaques des autres. On a, par exemple, grille de lecture. Grille de lecture, c'est chacun de nous, on a une grille de lecture. C'est-à-dire, c'est la grille d'appréciation. Je te donne un mot, tu vas me dire comment tu le ressens, ce mot-là. Mais l'autre à côté ne va pas le ressentir de la même manière. L'interprétation. Il y a quelque chose qui se passe, tu l'interprètes comme ça, moi je l'interprète comme ça. Et quand on a compris tout ça, on dit, notre grille de lecture, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle reflète qui je suis. Parce que sinon, l'autre va dire, bah, c'est ce que tu penses, c'est pas bon, c'est ce que je pense, moi qui est bon. Non, non, non. C'est pas ça. C'est qu'on n'a pas la même grille de lecture. Mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elle est différente. Tu vois ? On le voit notamment, j'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'il est tellement frappant. Vous avez un accident et vous avez deux personnes qui ont vu le même accident. Vous les écoutez et vous dites, vous n'avez pas vu le même accident. Mm-hmm. Pas possible. En fait, on a chacun notre grille de lecture. Alors vous imaginez en plus, entre un homme et une femme, la grille de lecture, comment elle est différente. Donc, on doit composer. Parce que ça, c'est... Ça, je te l'avais dit. Mais non, tu ne me l'as jamais dit. Mais si, je te l'ai déjà dit. En fait... Dans la communication, on peut avoir beaucoup de quiproquos et on ne se rend pas compte qu'on ne voit pas les choses de la même manière. On ne les apprécie pas de la même manière. Ah ben de toute façon, toi, t'es comme ci. Ah ben de toute façon, toi, t'es comme ça. Mais en pensant que ce que nous, on est, c'est meilleur que l'autre. Après, ascenseur émotionnel. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissent ce que c'est qu'un ascenseur émotionnel? Vous connaissez? Alors, il faut supporter ça. Et quand je vous dis que l'amour, c'est une vertu divine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Mais là, je prends un exemple comme ça, il y en a plein d'autres. Hein. Votre femme vous fait un compliment de folie. t'es arrivé là. Mais 3 minutes après, elle vous casse. Parce qu'elle elle est comme ça, elle réagit comme ça. Et 3 minutes après, elle vous dit quelque chose qui n'est pas bon chez vous. Et tout ce que tu avais gagné tout d'un coup, tchoum, t'es redescendu là. Ça, ça s'appelle l'ascenseur, tchoum, émotionnel. 3 minutes après, hop, tu remontes. 5 minutes après, tchoum, t'es descendu.
C'est le piment du coup.
Ah, c'est pas un piment, c'est que ça là, ça fatigue. Tu comprends? Ça là, si t'es pas, si t'as pas le Seigneur, tu comprends? Parce que la dévalorisation, on va le voir ce soir. La dévalorisation, ça fait de bien à personne. Et quand tu es descendu là, tu peux te dire que tu es dévalorisé. Et si tu as l'esprit orphelin, tu vas rentrer dans ta grotte. Tu vas rien dire. Tu vas juste avaler la pilule et tu vas mordre ta chic. Mais parce que tu as un esprit orphelin. Et là, tu rentres dans ta chic. Et l'autre, elle, l'autre, pas de problème. Qu'est-ce qui t'arrive? Un problème? Ça va, tout va bien. Bon, celui-là, pas trop de dessins à faire. Les hormones. Particulièrement une fois par mois. Il y a un petit peu, il y a un taux d'hormones qui est un peu plus fort que d'habitude. D'accord ? Donc là, calme. C'est pas le moment de s'énerver. Calme. J'ai besoin du Seigneur. Amen. Les blessures de la vie qui ressortent, tu vois, dans ta grille de lecture, je dis quelque chose, tu l'interprètes par rapport à tes blessures. La fatigue, très important, on la néglige souvent, la fatigue. L'irritabilité. Quand tu commences à être irritable, dis-toi bien que tu es en déficit de relation avec Dieu. C'est un bon signal. Tu es irritable, à mon avis, tu passes pas beaucoup de temps avec le Seigneur en ce moment. Parce que quand tu es avec le Seigneur, tu n'es pas irritable. Parce que c'est l'amour de Dieu qui combat tout ça. Tu vois? Et quand tu commences à être irritable dans ton couple, bon, ailleurs aussi, au boulot, tout ça, mais principalement dans ton couple, là, je peux te dire que faudrait que tu fasses une pause, faudrait que tu ailles faire un petit tour avec le Seigneur. Je crois que tu as besoin de brancher et prendre une dose. Bon, la liste, elle n'est pas... Hein, on pourrait la continuer. Mais vous comprenez que supporter l'autre avec juste mon amour à moi, c'est carrément impossible. C'est faux. Là, faut être fou pour penser que c'est possible. C'est impossible. Et le couple, si on ne fait pas attention, le couple, mais c'est lui qui prend des coups à chaque fois. C'est pas que moi. C'est pas que l'autre. C'est notre couple qui s'abîme. Au début, c'est pas méchant. Non, les petits coups de couteau. Non, mais c'est sur le nombre d'années que ça va augmenter. Ça ne va pas aller en diminuant. Ça va aller en augmentant. Tu vois? Et là, tu accumules plein de choses. Il y a du ressenti. Tu vois? Ressentir, vous voyez ce mot-là, si vous le définissez, c'est ressentir. Je ressens à chaque fois. Et ça s'accumule. Et là, le couple, est-ce que vous croyez qu'avec ce ressentiment-là, j'ai envie de dire des belles choses à l'autre? J'ai envie d'embellir mon couple, alors que d'un autre côté, je suis complètement pris par l'amertume dans le ressenti? C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Si on laisse partir le ressenti, il n'y aura plus la place pour valoriser l'autre. Mais au contraire, dès qu'on aura une petite conversation, tu prends ça, tout ça, de l'abondance, du cœur, la bouche parle. Si mon cœur est empoisonné par tout ça, je peux te dire qu'il va en sortir des trucs. Et là, ce que je vais vous dire ce soir, impossible. Soit on va parler du cœur à cœur. Si c'est ça, le cœur à cœur, c'est même pas la peine d'y aller. Parce qu'à la première sortie, on va déballer toutes les factures à l'arrière, et il y a le prix à payer. Et là, c'est cœur à cœur, c'est le dernier soir. C'était ce soir-là, et c'est fini. Il n'y en aura pas d'autre. Merci beaucoup. Ouais. On a besoin de Dieu dans le couple. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. et je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est pas que de la théologie, c'est pas que de la théorie. C'est-à-dire qu'on a une relation, mais comme nous sommes dans un travail, on est dans un travail, j'ai besoin de me restaurer, j'ai besoin de me soigner, j'ai un travail qui se fait avec Dieu. Évidemment que notre relation, elle ne va pas toujours être bisounours. Elle va être des fois compliquée. Et c'est pour ça que quand il y a de la friture, là, je dois monter un peu plus haut. Je dois aller voir Dieu. Parce que c'est avec lui que je vais régler le problème. Ce n'est pas avec ma femme, ce n'est pas avec mon mari.
Et ça marche.
Ben heureusement.
Amen.
Mais il faut prendre du temps. Tu vois, il faut se dire, oula, c'est chaud, je vais prier. Parce que sinon, là, vous savez, on est tous fait pareil. Hein. Sinon, c'est la chair qui prend le dessus. Et puis, on y va, là. On s'en met quelques-unes. C'est vite fait. On est, ça, c'est... Franchement, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour ça. On est tous capables de s'invectiver, de péter une coche, de voir la lionne qui sort tout d'un coup, tu vois, avec ses griffes. Là, il n'y a aucun problème. Même les autres, ils n'imaginent même pas ce qu'il y a dans la maison. Un lion en cage ou une lionne en cage. Ça sort là, je te dis pas. Les insultes, les machins, les trucs, allez, tout ce que je t'ai pas dit depuis un moment, là, allez, prends le paquet, tiens, prends ça. Et c'est le couple qui prend les coups de canif. Donc, sans Dieu, là, il ne faut pas rêver. Sans une communion avec Dieu, on n'arrivera pas à avoir le couple qu'on est appelé à avoir. Il nous faut l'ingrédient essentiel. Il nous faut agapé. Il nous faut le fruit de l'esprit. Quand on se branche à la source, on reçoit l'amour, on reçoit la joie, on reçoit la paix, on reçoit la patience. La patience de dire, waouh, c'est chaud là, c'est chaud ce soir là, Seigneur, donne-moi la patience là. Parce que j'ai toute ma chair là qui a envie de rentrer dans l'art, là, d'y aller au combat. On a besoin là de dire, tiens Seigneur, je ne suis pas appelé à ça. Et mon couple n'est pas appelé à ça. Mais là, si on a laissé partir les émotions, là, c'est chaud. C'est chaud pour rattraper le chien qui s'est barré. Il a perdu la laisse. Tu ne rattrapes pas le chien comme ça. Il nous faut la bonté, il nous faut la fidélité, la douceur. Il nous faut la douceur dans notre couple. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi sur la colère, sur l'agressivité. Sur l'irritabilité, sur la fatigue. Comprenez ça? Ça, là, ce soir-là, c'est du pratique, là, ce soir. On parle de Dieu, mais c'est du pratique. Si tu n'as pas tout ça, si tu n'as pas conscience de dire, là, waouh, la chair est en train de monter, là, je le sens, waouh, je suis pas bien. Oh. Et franchement, c'est, on l'a tous en nous. Hein. Tout le monde, là. On peut faire semblant, on peut faire des bons petits chrétiens. Regardez comment je suis gentil. Ouais, mais je sais ce qu'il y a en toi. Tu sais qu'il y a, l'apparence, parce qu'on ne va pas tous montrer un mauvais visage. Hein. On a tous des petits visages d'ange, tu vois. Mais quand tu te pèses sur la queue, ben, je peux te dire qu'il y a autre chose que l'ange qui sort. Mais ouais. Mais on est appelé à grandir. On est appelé à avoir conscience de ce que je dis ce soir. On est appelé, c'est pas grave, ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Mais au moins, on sait qu'on n'en reste pas là. Et on arrête d'agresser l'autre. On va voir son papa. Et on va dans les bras de son papa. Parce qu'on a un abri. On a un refuge. On n'est plus des orphelins. On est des enfants adoptés. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et notre papa, il nous attend. Il est là, il nous attend avec ses bras d'amour. Et si tu n'as plus cet esprit d'orphelin, alors tu vas aller voir ton papa et tu vas pouvoir pleurer avec ton papa au lieu d'être agressif avec ton mari ou ta femme. Va voir ton papa, pleure, va lui dire que c'est pas juste. Oui, la vie n'est pas juste. Va lui dire que c'est pas normal. Va lui dire que c'est toujours toi qui fais les efforts. Va pleurer avec ton papa. Et il saura comment te consoler. Parce qu'il est le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. D'accord ? La famille de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je viens te voir, papa, parce que c'est pas juste. C'est pas juste ce qu'elle dit. Elle dit des choses et c'est même pas vrai. Tu vois ? C'est même pas vrai. Et d'abord, elle dit que je ramasse jamais le linge. Mais c'est faux, j'ai encore ramassé la semaine dernière. Tu vois ? Elle exagère. Elle dit que je fais jamais ci, je fais jamais ça. Tu vois, papa, c'est pas vrai. Tu m'as vu l'autre jour, j'ai fait.
Ah, c'est règlement de compte.
Va voir papa. Fais comme un petit garçon. Petit garçon, il va voir son papa. Et il dit, il a un conflit avec son copain et tout ça, il va voir papa. C'est pareil. C'est ça la communion, c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut une communion sincère. Il n'est pas là-haut sur son piédestal à nous regarder comme ça. Non, pas du tout. Il est là. Il habite en toi. Il a fait le temps de son Saint-Esprit en toi. Il n'y a pas plus de proximité que Dieu. Amen. On a besoin de lui tous les jours. Et c'est ça qui fera la différence dans votre couple. Le fruit de l'esprit, il est là, il est en nous. C'est juste à dire, Seigneur, j'ai encore besoin de plus de patience. Seigneur, j'ai encore besoin de plus de douceur. Apprends-moi à parler gentiment. Comment ça se fait que je parle gentiment avec des étrangers et quand je suis à la maison, je parle comme un ours? Pas normal. Quand c'est Agapé qui dirige ma vie, la priorité n'est plus ma satisfaction, mais celle de l'autre. Il y a une mort à soi-même dans le succès de mon couple, de mon mariage. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit notre chair qui domine. Il faut toujours qu'on pense à notre couple. On pense à la personne qu'on a fait. On l'a fait, vous deviendrez une seule chair. Vous allez quitter pour devenir. Il y a quelque chose de nouveau. J'ai cette responsabilité-là. Qu'est-ce que je fais de ce couple-là? Qu'est-ce que je fais de mon couple? Tu vois? Et pour ça, je dois mourir à moi-même. Je dois mourir, parce que si je ne meurs pas à moi-même, comment je vais pouvoir accepter que l'autre, il vienne avec moi? Tu vois? Il vienne s'emboîter avec moi, si je ne meurs pas à moi-même. Il faut que j'accepte de perdre des choses pour gagner d'autres. Le Seigneur, il l'a dit. Il a dit, celui qui perdra sa vie, la gagnera. Mais celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Tu vois? Mais si on est têtu, et on dit non, c'est moi qui ai raison. Ben tu vas perdre ton couple. Et si tu perds ton couple, tu vas te perdre aussi. Et tu vas perdre tes enfants. Ça va être une cata parce que tu n'as pas su dire, ok, je rends les armes. Ok Seigneur, je travaille pour mon couple. Et je travaille sur moi.
C'est bien ce que tu viens de dire là.
Ah, merci, ça fait plaisir.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fin de compte, ben, on nous apprend, on connaît ce verset dans un autre sens spirituel. Ouais. C'est-à-dire, étant dit que là, eh ben, ça fait aussi partie d'un sens aussi qui apporte aussi en jeu.
Bien sûr.
Voilà, parce
bien
qu'on sûr. Pense plutôt, quand on prend l'engagement à la mort.
Mais tu sais, ça rejoint. Puisque, si tu veux, en décidant de lâcher prise, en fait, c'est pour faire la volonté de Dieu. Tu comprends? Donc, quelque part, il y a une mort à moi-même, dans le sens que je meurs à ma chair, je meurs à ce que je crois être bien, alors que ce n'est que des dysfonctionnements, en fait. Et je rentre dans le fruit de l'esprit. C'est une décision. Dieu, il attend que ça, mais il ne peut pas le faire sans ta volonté. Être doux en parlant avec les gens. Mais ça, c'est Dieu qui te rend capable. Mais si tu ne le demandes pas, tu ne l'auras pas. Tu vois, la maîtrise de soi. Hein? Tu peux dire, ouais, de toute façon, moi, je suis comme ça. Moi, j'ai un caractère. Tu vois, si tu me cherches, tu me trouves. Tu peux penser comme ça. Mais ça, c'est la vieille personne. C'est pas la nouvelle nature. La nouvelle nature, elle a reçu la maîtrise de soi. Mais seulement, est-ce que tu veux rentrer dans cette maîtrise de soi? Ou est-ce que tu es fier de dire comme ton père, ouais, tu nous, on vient pas nous chercher, nous, hein, parce que. Tu viens me chercher, mon gars, tu vas voir à qui t'as affaire. Tu vois? Mais ça, on a tous été capables de le faire. C'est tellement facile, ça. C'est facile, ça. Tu vois? Mais c'est pas à ça qu'on est appelé. Il faut mourir à ça.
Amen.
Il faut mourir à ça.
Amen.
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 On va faire le deuxième.
Une autre définition de l'amour dans le mariage, l'amour, c'est un effort constant. Tu vois, ça j'aime bien ça, parce que, tu vois, par rapport à l'amour, à Eros, tu sais, l'amour quand tu rencontres quelqu'un, le couple fait et tout, tu vois. Mais si je te dis à ce moment-là, arrête la photo, stop, l'amour là, que tu viens de dire là, ça va être du travail tous les jours. Hein? Mais non, pas du travail tous les jours. Je te dis, ça va être du travail tous les jours. Ah, ça change la réalité. Ça enlève un peu de romantisme. Et pourtant, vis le romantisme que tu as à vivre là, ok? Profites-en bien, parce que ça ne va pas durer. Il y aura un effort constant, il y aura un travail sur toi-même à faire. C'est un effort constant, persistant de ma part. C'est ça qu'il faut comprendre dans le mariage. Oh, on passe notre temps à changer l'autre. On passe notre temps à penser que l'autre a tort. Et que donc je mets mon énergie à changer l'autre. Et puis quand il ne comprend pas, ben c'est normal que je sois comme ça parce qu'il ne comprend rien. J'ai beau lui expliquer tous les jours, il ne comprend rien. Il est têtu, il ne veut pas changer.
Il est normal, c'est
Et c'est pas ça. C'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois changer. Et je dois m'adapter à l'autre. Et l'autre doit s'adapter à moi. Et franchement, on est loin de l'égoïsme. Notre nature première, c'est l'égoïsme. Tu vois? Avant de se marier, on avait qui à penser? À Bibi? Oui, j'avais quoi à penser? Faire la fête, avec les copains, soit. Il y avait quoi? C'était peinard, tranquille. Mais quand tu te maries, tu voudrais garder ça. Puis avoir une femme, c'est pratique quand même, chérie. Ah, voilà, t'as 20 ans, machin, tout ça. Bon. Mais ça, c'est du rêve. Ça marche pas, ça. Comment ça marche pas? C'est là, maintenant, c'est fini maintenant. Maintenant, tu t'es marié, tu as une responsabilité, tu as un engagement, tu vas t'adapter à l'autre. Et c'est individuel, c'est unique. Je dis, la dernière fois, je vous ai expliqué là, le puzzle. Vous voyez, c'est comme si que moi, je suis un puzzle, l'autre, ma femme, Erland, qui est là, elle a un puzzle. Tu vois, et on est appelé à faire une seule chair. Mais pour faire une seule chair comme un puzzle, ben, il va falloir que les pièces s'imbriquent. D'accord? Sauf que ça ne s'imbrique pas tout seul. Il va falloir les travailler, les prêts. Il y en a qui sont pointus.
Tranchants.
Donc il va falloir que le Seigneur m'aide là. Parce que là, celle-là, pour rentrer dans celle-là, ben, celle-là, il faut qu'elle soit usinée. Dans la Bible, on appelle ça élaguer. Tu vois? On va émonder, on va élaguer. Ça fait mal! Ça fait très mal! Mais c'est comme ça qu'on grandit. On élague celle-là. Ah oui, ah ça va mieux là. Ah oui, comme ça, c'est vrai que c'est pas mal comme ça. Tu vois? Mais en attendant, tu vois, t'as coupé un bout. C'est ça. C'est ça la réalité. Et oui, mais merci Seigneur pour le puzzle. Parce qu'à la fin, on a un beau puzzle. Tu comprends? Les pièces s'imbriquent petit à petit. Mais c'est le travail qui a permis ça. Le travail de l'un et de l'autre. Je travaille sur moi. Et l'autre travaille sur lui. Et pourquoi ça? Regardez la définition. Afin de créer pour l'autre un contexte favorable, un contexte propice. On essaie d'être dans les bonnes dispositions. Disposition d'amour, disposition où on se sent bien, disposition où on rentre à la maison, on est heureux de rentrer à la maison. Tu vois, on rentre dans notre havre de paix. C'est notre cocooning à nous, c'est ce qu'on a créé.
On est
dans un contexte propice et là, je fais tout pour être une personne épanouie, une personne qui grandit parce que c'est pas la guerre à la maison, c'est pas la bagarre à la maison, c'est la croissance, c'est l'amour qui domine. C'est ça.
Amen,
c'est
amen.
Ça, on est appelé à ça.
Amen, je dis.
Amen. Merci. Pensez différemment. Comprenez ça? On voit les choses différemment. On voit le mariage différemment. On voit le couple différemment. Penser différemment. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je vous le dis, moi. Si vous voulez un couple harmonieux, si vous voulez être heureux dans votre couple, vous n'avez pas le choix. Pensez différemment. Vivez différemment. Sinon, Je suis désolé pour vous, mais vous allez souffrir dans votre vie. Si vous tenez le choc que vous ne passez pas par le divorce, ben vous aurez le droit à une belle cohabitation, mais vous serez passé à côté. Vous serez passé à côté de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Donc, il y a un prix à payer, mais je vous dis que le résultat, il est extraordinaire.
Amen.
Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on donne le meilleur de soi-même. Parce que là, ça dépend de moi. D'accord? Je n'ai pas été responsable de tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis que je suis petit. Je n'ai pas choisi mes parents. Je n'ai pas choisi ce que j'ai subi. Mais maintenant, je suis responsable de ma vie. Je ne peux plus me cacher.
Amen.
J'ai le Seigneur avec moi. Quand ça va mal, je vais le voir. Quand j'ai mal, je vais le voir. Quand j'ai besoin de guérison, de restauration, je vais le voir. Mais je suis responsable de ma vie. Je ne peux plus dire c'est la faute de papa, c'est la faute de maman. Je grandis. Et je prends ma responsabilité. Je rentre dans le mariage et je veux que mon mariage soit différent du mariage de mes parents. Je ne veux pas imposer à mes enfants ce que moi j'ai subi. Je veux que ça soit différent. Mais c'est notre responsabilité. Et ce n'est pas l'autre qu'il faut accuser. C'est moi qui dois changer. C'est la réalité. Il n'y en a pas d'autre. Sinon, il ne fallait pas se marier. Sinon, il ne fallait pas vouloir devenir chrétien. Sinon, il fallait faire d'autres choix. Mais à partir du moment où on s'engage avec le Seigneur, on a des responsabilités. À partir du moment où on s'engage dans le mariage, on a des responsabilités.
Amen.
Amen. Et Dieu, je vous le dis, Dieu ne s'est pas trompé. Le mariage, c'est extraordinaire. À condition de le vivre comme ça. Vous pouvez essayer à votre manière, à vous. Mais je vous le dis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas 50 manières.
350 se marient dans le monde, ne connaît pas tout ça.
Non. Mais même quand on est chrétien, on ne connaît pas non plus.
Oui.
Mais maintenant, là, c'est fini. On connaît. Donc maintenant, on peut bosser. Beaucoup de mariages chrétiens sont mal en point ou fonctionnent en mode cohabitation parce que les conjoints ne savent pas s'aimer. Ils ne se sont pas réellement donnés l'un à l'autre. Et pourtant, on a fait des vœux au départ dans le mariage. On fait des vœux. Ils fonctionnent encore sur le modèle de ce monde où règne le chacun pour soi. Ce qui tue le couple, c'est l'égoïsme. Ce qui tue le couple, c'est que je vois à moi, ma personne. Mais ça, c'est le mariage du monde. C'est pas le mariage de Dieu. Le mariage de Dieu, c'est je me donne à l'autre et l'autre se donne à moi. Je donne le meilleur que je peux pour l'autre en connaissant ses besoins. C'est ce qu'on on va peut-être pas tout voir ce soir, c'est pas grave. Mais on va comprendre, tout ça s'enchaîne. Tout ce qu'on va voir, ça s'enchaîne. Il y a une explication de tout ça. On comprend le fil rouge et on se dit, voilà, ma femme, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça. Si Dieu m'avait mis avec une autre personne, eh ben, l'autre personne, elle aurait besoin de ça, elle aurait besoin de ça, elle aurait besoin de ça, et je me serais adapté. Mais là, je fais, ben, Dieu m'a mis avec Erland, je fais avec Erland. Et ça me transforme. Comprenez ? On est avec la personne que Dieu nous a mis, et cette personne-là, elle est unique, elle est spéciale. Et on s'adapte à cette personne-là. Et l'autre personne s'adapte, pareil, à l'autre aussi. On arrête de dire, oui, comme si, comme ça. Oui, mais c'est la personne que Dieu t'a donnée. Et elle n'est pas parfaite. Et elle a des qualités, elle a des défauts. Mais comme toi, tu as des qualités, tu as des défauts. Et on dépasse le fait de dire, oh, il est comme ci, oh, il est comme ça. Mais oui, il est différent de toi. Qu'est-ce que ça aurait donné si Dieu t'avait mis avec la même personne que toi? C'est quoi ce problème? Mais tu n'aurais jamais grandi? Tu serais resté un bébé?
Tu serais ennuyé?
On apprend à se connaître.
Ben oui, on apprend, et c'est pour ça qu'on va parler du cœur à cœur. On va apprendre à se connaître, parce que les besoins d'Erland ne sont pas les besoins de Fabienne, ne sont pas les besoins d'Estelle. Chacun, et par rapport à son histoire, par rapport à son hérédité, chacun a ses besoins.
C'est vrai.
Et donc, on va s'adapter. Et c'est pour ça que le mariage qui dure, le mariage qui grandit, le mariage se bonifie. Parce qu'on se connaît de mieux en mieux. Et donc on peut encore mieux apporter à l'autre ce qu'il lui faut. Et moi, ça va me transformer, parce que ça va m'obliger à aller dans des retranchements, ça va m'obliger à aller dans des endroits où, si j'avais été tout seul, je n'aurais jamais été. Mais oui. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que je suis transformé parce que je suis obligé de répondre aux besoins de ma femme. Et que ces besoins-là, c'était pas moi au départ. J'avais pas besoin de ça, moi. Égoïste comme j'étais, mais ça, j'ai pas besoin, ça. Mais on s'en fout. Elle, elle a besoin.
Amen.
Ah, Seigneur. Ah ben, dis donc, ok. Bah, allez, allez, hein. Allez, allez. Mais oui, on apprend. Et l'autre, et au lieu d'être frustré, l'autre, il est content.
C'est clair.
Parce qu'il reçoit ce qu'il a besoin.
On était à un mariage samedi dernier.
Comprenez ça? C'est pas compliqué à comprendre. C'est ça le mariage. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris du mariage. Vous avez tout compris. Vous arrêtez de vous battre et vous dites, bon, voilà, ben c'est mon chemin. Voilà. Et puis, c'est pas la peine de dire, t'es, je me suis trompé, j'ai pas pris le bon. Mais t'as rien compris. Parce que si c'était pas lui, mais ça aurait été un autre. Mais avec l'autre, ça aurait été pareil. Le problème, c'est de travailler sur toi. C'est pas. Tu vois, dans ton imaginaire, tu te dis, si j'étais tombé sur le bon. Ah, c'est quoi le bon? Ah, j'ai rien à faire. Ah, je fais rien du tout. Il est parfait. Tu comprends? J'ai pas d'effort à faire. Il est parfait. Mais ça n'existe pas. Ça, c'est que dans les romans à l'eau de rose, c'est que dans les films d'Hollywood qui te baratinent. Ça n'existe pas. Tu es appelé à travailler sur toi-même. Tu es appelé à mourir à toi-même. Tu es appelé à faire des choses que tu n'aurais pas fait si tu étais tout seul.
Amen.
Amen.
Je glorifie Dieu.
Alors, mon couple. Alors, la question de ce soir.
Oh, ça a monté d'un
peu. Ouais, parce que ça, je vois que ça dort un peu là. Et il baillait alors le frère. Moi, je vous vois là. Et l'oreille, je vous vois pas, mais je vous vois. Et là, ça fait une heure, donc tu vois, il y a quelle heure là? Ouais, ouais, on arrive à la fin.
De toute façon, hey, tu peux travailler sur toi-même si tu ne connais pas Dieu, ça
avancera. Non, exactement. Exactement. Tu ne peux pas le matin partir sans dire, t'es Seigneur, remplis-moi de toi, parce que franchement, je ne sais pas ce qui va m'attendre aujourd'hui, mais je préfère être rempli de toi, parce que, la vie là, pas facile. Là, la vie n'est pas facile. Tous les jours, tu vas trouver des sources pour t'irriter. Tu vas trouver des sources pour te mettre en colère. Tous les jours. Là, on est dans un monde déchu. Là, il faut revenir à la théologie. On est dans un monde déchu où le mal domine. Tu comprends? Les ténèbres sont sur cette terre. Donc, ne crois pas que le matin, tu vas sortir de chez toi dans un monde de bisounours. Tout le monde est gentil avec toi. Tout le monde est beau avec toi. Pas de contrariété. Ça n'existe pas. Tu comprends? Ça, c'est tous les jours, tu vas avoir des contrariétés, tous les jours, tu vas avoir de quoi t'irriter, tous les jours, tu vas avoir ta dose de, j'allais dire un gros mot, de problèmes. Tous les jours. Notre vie, tu sais ce que c'est notre vie sur Terre? Notre vie sur Terre, c'est régler des problèmes.
C'est pas Dieu, surtout au boulot. Hein.
Non, mais la réalité, c'est de régler des problèmes. Tu comprends? Tes mécanos, tous les jours, tu vas aller régler les problèmes de la voiture.
Mais moi, j'ai vécu ça pendant 50 ans. Il n'y a que 5 mois, j'étais touché.
Oui.
Et 50 ans, c'est vraiment la haine, le moins de temps, j'ai sauté dessus. Hein.
Ouais. Bah, comme tout le monde. Moi, tu sais, c'est pareil. Moi, c'est 43 ans, mais si tu vois mes premières années de 43 ans, c'est pas terrible. Hein. Tu vois, chef de bande, c'est pas terrible. Chef de bande, tu vois. Et tu vois le gars aujourd'hui, tu peux te dire que Dieu l'a transformé. Et c'est pas fini, il y a encore du boulot. Mais bon, on est content de ce qu'on en est. On est content. Mais pour dire, c'est ça, tu vois, pour dire, est-ce que ce soir, avec tout ce que je vous dis, est-ce que vous comprenez qu'on peut donner une nouvelle chance à notre couple?
Amen, amen.
On peut donner une nouvelle chance à notre mariage. On n'est pas là à dire, non, mais ça, Bertrand, t'es gentil, mais c'est pas pour nous, ça. C'est pas pour nous. Là, si vous me dites ça, là, je meurs direct.
Moi, je
te fais du chantage de mon papa. Ouais, on va y dire. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas que ça, tu vois. Là, tu vois.
Voilà.
Mais ça, je vais y venir. Je vais y venir. Mais tu vois, là, ce soir, le diaporama, ce soir, il y a au moins... Là, on serait parti pour 4h, 5h. Là, on va y aller mollo. On a du temps devant nous. Mais on va y arriver à ce que tu dis. Hein, on va y arriver. Ça s'appelle « Les langages d'amour » de Gary Chapman. Tu vois. Et ça, il faut le savoir, on n'a pas tous le même langage d'amour. Donc, quand tu ne sais pas ça, déjà, tu vois, tu es mal barré. Pourquoi ? Parce que tu penses, la plupart des gens pensent ça, que ton langage d'amour à toi, ton langage d'amour à toi, il est universel.
Non.
C'est-à-dire que ta façon d'aimer, c'est la façon des êtres humains d'aimer.
Non.
Non. En fait, on a chacun un langage d'amour. Non. Donc, si je n'ai pas le même langage d'amour qu'Erland, si je ne le sais pas, qu'est-ce qui va se passer ? Ben moi, je vais lui faire plaisir avec mon langage d'amour. Et puis elle ne va pas se sentir aimée. Mais je ne vais pas comprendre. Je vais dire, mais attends, je fais des efforts, je fais ici. Mais les femmes, c'est vraiment compliqué. Tu vois, tout ce que je fais pour elle, et elle n'est pas contente. Mais c'est parce que tu n'as pas tapé dans le mille, tu as tapé à côté. Ce n'est pas comme ça qu'elle se sent aimée. Donc c'est important de savoir qu'on a chacun un langage d'amour. Mais on y viendra. Ce n'est pas l'objectif de ce soir. Parce que là, ce soir, on est juste là, après tout ce que je vous ai dit, mon couple, et pourquoi pas une nouvelle naissance. C'est ça l'objectif de ces enseignements. Pourquoi on ne repartirait pas sur des nouvelles bases ? Amen !
Amen !
Ah oui, là, ça mérite un amen.
Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen. Reformuler son engagement. Avec la compréhension qu'on a maintenant du mariage. Repartir à zéro, ça va être quatre choses. D'accord ? Reformuler son engagement. Nous sommes appelés à nous donner l'un à l'autre. Je ne suis pas ma priorité c'est toi. Amen !
Amen.
Amen. Que l'un et l'autre, vous vous dites, la priorité à partir d'aujourd'hui, c'est toi.
Ma priorité c'est toi.
Et ma priorité c'est toi.
Amen.
Est-ce que tu peux dire ça à ta femme ? Est-ce que tu peux dire ça à ton mari ?
Oui.
Ma priorité à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi, mais c'est toi. Allez, allez-y. N'ayez pas honte. Allez-y, dites-le. Ma priorité à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi, c'est toi.
Et ceux qui n'ont pas de mari, eh bien, Seigneur,
puisse
le dire.
Amen, 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 amen. Ensuite, deuxième chose. Ok ? Ça y est, bon, c'est juste ça à dire. Attendez.
Yvonne, je prie pour ton mari, il y aura une priorité.
Je vous donne la deuxième. La deuxième, elle est un peu plus costaud. On ira dans la deuxième ?
Oui.
On ira dans la deuxième. Entrer dans le processus du pardon. C'est indispensable. Pourquoi ? Parce que avant de faire ces enseignements, vous étiez ignorant. C'est comme avec le Seigneur. Tant que je n'ai pas connu le Seigneur, tout ce que c'était avant, j'étais ignorant. Sauf que maintenant, vous n'êtes plus ignorant. Vous savez. Maintenant, il va falloir passer dans la phase « j'applique ». Mais, pour appliquer, il va falloir faire un petit peu de nettoyage. D'accord ? Vous allez rentrer et j'ai marqué « processus ». D'accord ? Pourquoi « processus » ? Parce que c'est quelque chose qui peut demander un peu de temps. C'est-à-dire que chacun va devoir ressortir du placard toutes ses frustrations, toutes ses contrariétés, toutes ses déceptions. Ressortir. Et mettre ça sur la table pour demander pardon. Parce qu'on ne peut pas repartir à zéro. Parce que nous, quand on vient à Dieu, Dieu prend les péchés, terminé. Page blanche. Mais moi, je vous propose de faire une page blanche. Page blanche. Okay ? Parce que sinon, si vous ne faites pas la page blanche, vous allez ramener sans arrêt des squelettes du placard. Régulièrement, vous allez ouvrir le placard et vous allez sortir un petit squelette. Donc, l'idée, c'est de faire un nettoyage du placard. Un grand nettoyage de maison. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à entretenir la maison. Il faut commencer par faire un grand nettoyage. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à chacun réfléchir à l'amertume que vous avez accumulée, aux contrariétés que vous avez accumulées, d'accord ? Et dans la grande sagesse, avec le fruit de l'esprit, de demander pardon et que l'autre, en tout cas, accorde le pardon et de décider de repartir sur des bonnes bases parce que maintenant, vous ne voulez plus faire ces erreurs-là. Est-ce que c'est compris? D'accord? Et c'est pas, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas à assassiner l'autre, il n'y a pas à dire ça fait 30 ans que je te dis ça ou ça fait 20 ans que je te dis ça. Non, 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 non. Dans l'humilité, chacun travaille pour soi. C'est-à-dire, tu vois, chérie, ben, moi je t'en veux pour ça, je t'en veux pour ça, je t'en veux pour ça. Okay. Et l'autre dit, ben, chérie, ok, j'en tiens compte. Et je vais faire attention. Mais attention, là, c'est pas du blablabla. Parce que c'est le couple qui est en jeu. C'est une question de vie ou de mort. Donc là, on n'est pas en train de jouer. D'accord ? Et donc là, ça c'est important. Chacun est appelé à s'excuser et à demander pardon pour son comportement, ses paroles et ses pensées. Amen ?
Amen.
On est d'accord ? D'accord ? Hein ? Cette semaine, c'est un bon exercice. Prenez un petit peu de temps et faites cet exercice. D'accord ? Sans s'accuser mutuellement, juste de dire, voilà, parce que tant qu'on n'a pas réalisé tout ce qu'on vient de dire, on ne sait pas combien de fois on a pu blesser notre conjoint. Et combien de fois notre conjoint ne nous l'a pas dit parce qu'il y a des mécanismes de défense qui se sont mis en place.
Il y a la frustration.
Là, ce que je vous propose, c'est de repartir sur une nouvelle base, avec un nouveau fondement, mais de façon aussi à créer ou à recréer de l'intimité.
Amen.
Parce que on ne peut pas créer de l'intimité si on n'a pas nettoyé tout ce qu'il y a en arrière. C'est impossible. L'intimité, c'est vraiment une confiance dans l'autre. Et pour que cette confiance soit créée, il faut plus qu'on ait peur de prendre des coups, plus qu'on ait peur de nos paroles, plus qu'on ait peur de nos actions. Donc, il faut faire un bon nettoyage et accueillir après la différence de l'autre. Accueillir la réalité de l'autre, ses blessures, sans juger, parce qu'on a tous été blessés, et on a besoin de... Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. On a besoin de se rendre à nouveau vulnérable. Mais pour se rendre à nouveau vulnérable, il faut être sûr que l'autre ne va pas se servir de notre vulnérabilité pour nous assassiner. Vous comprenez ça ? Vulnérabilité, ça veut dire que si je commence à ouvrir mon cœur, je vais te dire des choses sensibles, des choses sur lesquelles il ne faut pas jouer, parce que ce n'est pas guéri encore. D'accord ? Si j'ouvre mon cœur et que je te l'ai dit, c'est que j'ai confiance en toi. D'accord ? Et ça, il y a besoin de ça pour recréer de la confiance, pour recréer de l'intimité. Tu vois ? Parce que si on loupe une case, le couple ne va pas fonctionner comme il faut. Donc il faut nettoyer, appliquer maintenant ce qu'on a dit, recréer de la confiance. La confiance va nous amener à recréer de l'intimité. L'intimité va s'exprimer dans la sexualité. C'est-à-dire que si je veux une vie sexuelle harmonieuse, il faut que les deux se sentent en confiance. Si je ne suis pas en confiance, la relation sexuelle sera juste une gymnastique. Pas plus, pas moins. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que la sexualité vient couronner toute cette intimité, toute cette confiance qu'il y a dans le couple. Ouais. Et on peut parler de tout dans la sexualité dans la mesure où ça vient couronner le tout. Parce que la sexualité, on pourra en parler. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est compliqué. D'accord ? Mais quelquefois, on sépare tout ça. Et à cause de notre culture, à cause de l'éducation qu'on a eue, il peut y avoir des tabous. Et finalement, ça se transforme comme un lieu de non-dit. On ne parle pas de la sexualité. On fait l'amour de temps en temps. Mais voilà, c'est juste... On a des codes pour comprendre que c'est le moment. Mais en fait, ce n'est pas ça la sexualité. La sexualité, c'est juste la continuité de l'intimité. Et pour, alors si je reviens en arrière, pour qu'il y ait sexualité comme le Seigneur le veut, où on est bien, on est C'est pas, il n'y a pas de performance, il n'y a rien de tout ça. C'est simplement l'intimité au maximum de deux êtres. Ben, il nous faut. Elle ne peut pas être détachée de l'intimité. Et l'intimité est créée par la confiance. Et la confiance est créée par l'ouverture de soi où je me rends vulnérable à l'autre. Vous êtes subjugué. Comprenez ça? Et là, vous avez le sens de votre couple. Là, vous avez quelque chose d'unique. Là, vous avez quelque chose qui est précieux. Vous comprenez votre couple. Et là, vous êtes prêt à faire des efforts incroyables pour votre couple. Parce que c'est plus vous qui êtes en jeu. C'est beaucoup plus que ça. Et il y a une harmonie à vivre cette relation à deux. C'est beau, hein? C'est merveilleux. C'est ça le couple. C'est ça le couple voulu par le Seigneur. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, ça sera le deuxième. Je vous demande, on va prier un petit peu à la fin. On va essayer de commencer cette action-là. C'est pas facile. Le pardon, on le connaît, c'est pas facile. Mais dans un couple, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de couple. Je vous le dis direct. S'il n'y a pas de couple dans le pardon, il n'y a pas de couple. Il y a un faux couple. Il y a un semblant de couple. Il n'y a pas de couple. Ensuite, troisième chose, on verra la prochaine fois, mettre en priorité le cœur à cœur, c'est indispensable. Ce n'est pas une option. Le cœur à cœur, on verra ce que c'est. On verra comment le mettre en place. Le cœur à cœur n'est pas une option. C'est une question de vie ou de mort. Si votre couple, à qui on a donné de la valeur, à qui on chérit, si ce couple-là, on ne lui donne pas du temps, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur. On donne du temps à quelque chose qui a de la valeur. Vous comprenez? Si vous dites, mon couple est important, mon couple a de la valeur, mais je n'ai pas de temps pour mon couple, vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Un couple doit respirer. Un couple doit être nourri. Un couple, c'est ces deux êtres qui continuent à s'apprécier d'être ensemble, à se parler de cœur à cœur, à ouvrir leur cœur. Ils se connaissent, ils savent dans quel état d'esprit est l'autre. Et on se soutient dans la difficulté. On se soutient dans les émotions de l'autre. On écoute les émotions de l'autre. On fait preuve d'empathie avec l'autre. Et si moi je me sens soutenu dans mon couple, par rapport à ce que je traverse, par rapport à ce qui se passe en moi, ça va renforcer mon couple. Amen. Tu comprends? Mais si je ne suis pas écouté dans mon couple, si je suis obligé d'aller voir ailleurs pour exprimer ce que je pense, mais à quoi me sert mon couple? Comment vous croyez que les adultères commencent? C'est juste quelqu'un qui a pris du temps pour écouter la personne. C'est comme ça que ça commence. Et pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pas trouvé dans son couple l'écoute qu'elle aurait dû avoir. Donc le cœur à cœur, c'est indispensable. Je vous le dis, hein, indispensable. Au moins une fois par semaine, on prend un temps pour nous deux. Si vous réalisez que votre couple, il tient toute la structure. Il tient la famille, il tient les enfants, il tient tout. Vous comprenez qu'il a besoin d'être fort. Et pour qu'il soit fort, eh bien, il faut qu'il vive. Il faut que le couple, qui est cette personne-là, il faut qu'elle soit active, il faut qu'elle vive. Je dois savoir ce qui se passe dans le cœur de mon mari. Je dois savoir ce qui se passe dans le cœur de ma femme. On en parle, on prie pour ça, on est ensemble, on se soutient. On n'est pas des étrangers. Toi, tu vis tes émotions de ton côté. Moi, je vis mes émotions de mon côté. Et puis, on s'arrange. Et puis, un de ces jours, on se verra ou on ne se verra plus. Bye bye. C'est sérieux ce que je vous dis ce soir. Vous comprenez? C'est sérieux ce que je vous dis ce soir. Donc, on verra ça, le cœur à cœur. Et enfin, on verra l'engagement de valoriser l'autre. Ça, c'est une spécificité du couple. Vous avez deux choses dans le couple. Vous pouvez valoriser votre mari, vous pouvez dévaloriser votre mari. Vous pouvez valoriser votre femme ou vous pouvez dévaloriser votre femme. C'est un choix. Mais l'issue finale va beaucoup dépendre de la manière dont vous parlez à votre mari, dont vous parlez à votre femme. Donc comment vous la considérez. Ça va changer l'issue finale de votre couple. Valoriser sa femme. Valoriser son mari.
On dit amen.
Amen. Amen. Amen. Ça mérite un petit amen. Ok. Et j'ai fait un petit tableau pour vous aider à accomplir un petit peu tout ce qu'on a vu ce soir. C'est un petit tableau très simple, mais qui peut vous aider dans votre cœur à cœur. Hein? C'est simple. C'est ici, il y a votre nom, le nom du mari. Ici, le nom de la femme. Ici, il y a vos besoins et quelles solutions vous pouvez mettre en place. Et chacun remplit son tableau. Et après, dans un cœur à cœur, vous échangez ces papiers-là. Vous les regardez tous les deux. Et c'est très sérieux, ça. Parce que ça, c'est la clé. Mes besoins. Et peut-être que je n'ai pas réussi à en parler jusqu'à maintenant. Parce que j'ai pensé que ça servait à rien ou que l'autre ne comprendrait pas. Mais dans la mesure où ce soir, on repart sur des nouveaux fondements, des nouvelles bases, ce tableau-là, il peut être un outil qui va vous aider à préciser votre pensée, à mettre des mots là où peut-être les phrases seraient peut-être difficiles à sortir. Parce qu'on n'est pas encore arrivé peut-être à pouvoir mettre des mots sur des émotions. On n'a pas encore réussi à libérer des mécanismes de défense. On n'a pas encore réussi à se rendre vulnérable. On n'a pas encore réussi à rentrer dans cet enfant adopté. On a encore cet esprit d'orphelin. Il y a plein de choses qui peuvent empêcher l'intimité de se mettre en place. On va les prendre à la fin, oui.
Est-ce qu'un mécanisme de défense, par exemple, ne pas savoir identifier ses besoins aussi?
C'est pas un mécanisme de défense. Je pense que c'est en fait, ça peut être un mécanisme de défense dans le sens que se rendre vulnérable serait vu comme de la faiblesse. Et donc je préfère être fort. Et donc j'ai pas de besoin. Tu sais, je suis un surhomme. J'ai pas de besoin. Et je suis fort. Tu vois, ça peut être dans ce sens-là un mécanisme de défense. Je ne me rends pas vulnérable. Tu vois, je reste fort. C'est complètement faux. Tu vois, on est fragile derrière la carapace, mais je monte la carapace parce que si je ne monte pas la carapace, j'ai peur que les autres en profitent. Il y a un manque de confiance. Tu vois. Donc je préfère arriver et puis montrer le gars costaud, tu vois. Moi, j'ai rien besoin dans la vie. Moi, je suis un extraterrestre. Et ça va donner une certaine consistance à la personne, mais une consistance qui n'a pas de poids, en fait, tu vois. Une fausse consistance. La force d'un homme, c'est de se rendre vulnérable avec sa femme. Tu vois. Après, je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est un travail qui se fait à deux. Tu vois, et il faut nettoyer ce qu'il y a. Parce que ce qui s'est passé, écoutez bien ce qui s'est passé aussi, c'est que quand le couple a quelques années, le couple s'est tellement donné des coups de couteau, des coups de scalpel dans le couple, qu'il y a des choses qui se sont mises en place. Et là, ce que je vous propose ce soir, c'est de prendre un risque. C'est de se rendre à nouveau vulnérable. Pour changer. Pour que votre couple change. Parce qu'il n'y aura pas de changement s'il n'y a pas cette volonté de se rendre vulnérable à l'autre. Il n'y aura pas de changement. Ça sera un faux changement. Vous ne changerez pas. Et votre couple ne changera pas. Et ça sera une catastrophe au final. Donc il n'y a pas le choix. Mais je sais que ce n'est pas facile. Il faut renouveler la confiance. Qu'on ne va pas se faire démolir en ayant abattu notre bouclier, en enlevant la carapace. Je me sens nu, je me sens fragile. Est-ce que je peux être fragile avec toi? Je dirais que tu n'as pas le choix. Mais il faut que l'autre l'entende, il faut que l'autre le comprenne. Parce que c'est notre couple qui est en jeu. C'est pas que toi qui est en jeu, c'est pas que l'autre qui est en jeu. C'est notre couple qui en dépend. Comment notre couple va sortir de là? Fort, on peut compter l'un sur l'autre. Tu connais mes faiblesses. Là, je viens te voir, tu vois, devant les autres. J'ai fait le dur, mais en réalité, voilà ce qui se passe dans mon cœur. Et je veux te le dire à toi. Parce que tu es digne d'accueillir ma douleur. Tu es digne d'accueillir ma souffrance. Comprenez ça? Quand vous recevez les confidences de quelqu'un, c'est un honneur. C'est que la personne vous fait confiance.
Amen.
Mes besoins, là, c'est ce que j'attends envers ma femme, c'est ça?
Là, c'est elle. Elle, ses besoins. Et toi, c'est là. Toi, tes besoins. Mais tu vas les découvrir, les besoins de l'autre.
Ouais, c'est ça.
Hein? Et après, savoir y répondre, c'est tout un travail d'une vie. C'est pas... Ah, j'ai compris, j'ai dit, ah, tac, tac. Non.
C'est bon.
Ça évolue tout le temps. Et il y a des besoins que seul Dieu peut répondre. OK? Mais au moins, je peux essayer d'apporter ma pierre là-dedans. On n'est pas des étrangers. Je peux aider. Même si au final... Il y a des failles au fond de nous que seul Dieu pourra aller chercher. Mais c'est ça la corde à trois fils. J'ai Dieu et j'ai mon mari, j'ai ma femme. D'accord? Mais quand le mari ou la femme ne répondront pas à ses besoins, j'ai Dieu. D'accord? C'est ça qui est fondamental. J'arrête d'être frustré. Ça prend du temps. Mais je romps pas le processus. J'accompagne le processus. Mais comme ça ne va pas aller assez vite, comme des fois, je vais être déçu. Et ça, c'est le piège du diable. Eh bien, je ne vais pas être déçu. Je vais dire, parce que moi aussi, je ne suis pas parfait. Moi aussi, je n'arrive pas à répondre à tous les besoins de l'autre. Eh bien, j'irai voir mon papa. J'irai voir mon papa. Et mon papa me consolera.
Oui, et il donnera les mots, excuse-moi, et il donnera les mots pour dire la chose qu'il faut à ton mari ou à ta femme. Voilà, si je ne suis pas contente avec Bertrand, je suis frustrée, je rentre dans ma chambre du Seigneur. Là, j'en peux plus avec tes oreilles là. Et bien, tes oreilles là, tes garables, mais pas contente. Il ne peut pas dire chérie. Et après, je vais, et puis Seigneur me dit, prends-le dans tes bras et dis-lui, tu es le meilleur des maris. Moi, j'ai dit, ouhou.
L'orgueil prend un coup quand c'est comme ça.
Sérieux? Ben, j'ai dit quand même, j'obéis Dieu, je reviens. Il fait « Ah bon, je suis le meilleur des maris. » Hop, tu gagnes un truc. Mais après,
attention à l'ascenseur émotionnel. Nous sommes que des êtres humains. Voilà. Et bon, c'est pas gagné quand elle a dit ça. Quand elle dit ça, c'est pas gagné. Parce que je la connais maintenant. C'est comme on a vu, tu sais, je te connais maintenant. Donc, elle fait le coup de l'ascenseur émotionnel. Bon, mais je prends les petits poissons, moi je dis ok.
Et après,
okay.
Me dit mais commercial,
tu vois, mais je sais pas combien de temps. J'en ai pour combien de temps. Parce que l'ascenseur émotionnel va arriver. Faut pas qu'on soit dans un monde de bisounours. Ok. Mais c'est comme ça la vie. On n'est pas parfait. Il y a mon papa. Heureusement, il y a mon papa. Parce que là, quand je vais être là-haut, vous croyez que je vais rester sur la montagne? Mais non. Il y a la vallée qui arrive. Ah, il y a la vallée qui arrive. Jean-Roger.
Toi,
qu'est-ce que tu penses?
Quelle solution à moi?
Ouais, ben oui, parce que il faut que tu comprennes qu'il n'y a que toi vraiment qui a la solution. Parce que moi, je vais peut-être faire des choses, et puis tu vas dire, mais non, t'as pas compris, c'est pas ça que j'ai voulu te dire. Parce qu'on verra dans une prochaine fois, pas dans cette thème-là, mais dans un prochain vendredi, on verra la communication et la difficulté de la communication, la fameuse grille de lecture. Donc, vaut mieux que ça soit la personne elle-même qui trouve les solutions, parce que moi, je vais être capable de dire, oh, j'ai trouvé comment on va faire, et en fait, je suis complètement à côté de la plaque.
Le travail de Dieu, c'est-à-dire de prendre ces solutions et les appliquer.
Ouais. En fait, si tu veux, là, tu facilites un peu le travail de l'autre sur la manière dont tu veux faire.
Elle me dit, excuse-moi, elle me dit, on discute. Là, c'est pas ce qu'il dit là.
Non, non.
Là,
en fait.
On discute, ça veut dire, ouais. C'est-à-dire, on discute,
oui. Oui, en mais fait, si. Si, si Jean-Roger, écoute bien. Non, attends, une explication. Parce que là, solution à mettre en place, c'est que, bon, là je mets Jean-Roger. Bon, là, je vais mettre Jeannette, ça va être plus simple. Jeannette, les besoins de Jeannette. Et comment Jeannette, elle verrait que les choses se mettent en place. Après, évidemment, on n'est pas dans un monde de dictature. Hein? Après, on en discute. On discute. Mais l'idéal, elle va sans doute te mettre l'idéal. Et toi, pour arriver là... Mais ça s'appelle la transformation.
Non, parce que là, c'est parce qu'on discute, d'accord. On discute, c'est pour pouvoir répondre à l'autre.
Ouais, aux attentes de l'autre, oui.
Tu peux trouver des dire oui, mais par contre, je ne suis pas d'accord. J'entends, solution que je mette en place dans la discussion, c'est-à-dire dans la discussion, arriver à mettre en place la solution.
Mais Jean-Roger, écoutez bien, Jean-Roger, t'as tout compris. C'est ça le cœur à cœur, il y a une soirée là-dessus. Tu vois, parce que entre ce qu'elle va te dire, et puis toi, tu vas argumenter. Tu vas dire, ouais, mais chérie, est-ce que tu crois pas que, tu vois. Et on ouvre la porte à la discussion. Mais le résultat, c'est ça qui est important. La manière d'y arriver, ben, peut-être qu'elle va prendre du temps. Peut-être que ça sera comme ci, comme ça. Mais c'est ça la vie d'un couple. C'est pas la recette, l'addition, toc, et puis c'est fini, c'est réglé. Ouais, c'est pas, t'es pas au resto avec, t'as fait ta commande là. Ça marche pas comme ça. Ça marche que, voilà, j'exprime mes besoins. Chose déjà qui va pas être facile pour tout le monde, d'exprimer ses besoins. Est-ce que c'est des besoins de tendresse? Est-ce que c'est des besoins affectifs? Est-ce que c'est des besoins... On va voir les langages de l'amour. On va voir que ça se complète avec les langages de l'amour. Mais, en tout cas, les besoins dans mon couple, si je devais rajouter un mot, c'est pour me sentir aimé. Pour me sentir aimé. Et, ben voilà, elle propose quelques solutions. Est-ce que ça sera au final les bonnes? On ne sait pas. Parce qu'une solution, on sait qu'elle est bonne une fois qu'on l'a essayé et qu'elle répond aux besoins. Tant que ça ne répond pas aux besoins, on dit ben, la solution qu'on a choisie n'est pas la bonne. Il faut choisir autre chose. Mais ça c'est génial. Parce qu'en réalité, le cœur à cœur, c'est exactement ça le cœur à cœur. Le cœur à cœur, c'est ni plus ni moins de répondre aux besoins de l'autre.
Est-ce qu'il faut deux feuilles, un pour le mari, un pour la femme, une feuille sur...
Non, il faut chacun. Chacun travaille sur...
Il change des feuilles.
Oui.
Tu vas prendre les feuilles plus grandes.
Pourquoi faire? Ah ben après, tu... là je vous ai donné un tableau. Mais après, le mieux, c'est de prendre chacun un petit cahier. Et puis vous notez tout ce qui se passe. En fait, comprenez bien que ça, c'est un outil pour vous aider, d'accord? Parce que je vous imagine au départ, si vous n'avez jamais fait de cœur à cœur, vous arrivez au resto, puis vous dites, ouais, Bertrand, il a dit, on fait un cœur à cœur. Ben d'accord, mais commence toi. Mais toi, commence. Ben, on ne sait même pas comment, ben, on n'a pas d'habitude, on n'a pas pris les bonnes habitudes. Il faut prendre des bonnes habitudes, tu vois? Parce qu'après, c'est une fois qu'on a commencé à ça, le cœur à cœur, c'est, alors chérie, ta semaine, comment ça s'est passé? Parce que c'est une chose de vivre ensemble. C'est une chose de rentrer le soir à la maison. C'est une chose, on a les enfants, on a les courses. Et on n'est pas là avec les enfants. Ah chérie, comment ça s'est passé aujourd'hui? Comment tu étais? Ça n'existe pas ça, c'est que dans les films ça. Ça n'existe pas. Dans la réalité, t'as les gamins qui te sautent dessus, t'as les leçons à faire, t'as la bouffe à faire, t'as la vaisselle à faire. En réalité, la semaine passe et t'as rien vu de la semaine. Tu vois? Et est-ce que tu connais ce qui s'est passé dans le cœur de l'autre? Ben non. Parce que ça ne se fait pas entre deux portes. Il faut un petit peu plus de temps. Si on veut se rendre vulnérable, ben, il faut créer le contexte déjà. Oui. Tu comprends? Il faut déjà un petit resto, un petit truc sympa, un petit endroit où on calme le jeu. Tu vois? Et puis là, on peut commencer à parler. Et puis surtout des habitudes à prendre qu'on verra dans la communication. Laissez parler celui qui a commencé à parler. Commencez pas à couper. Parce que on est des champions du monde. Vous savez le temps qu'on met pour couper la parole à quelqu'un? 17 secondes. 17 secondes. Mais là, j'arrive. Mais là, on ne peut pas laisser. Et là, tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais mis en premier dans le fruit de l'esprit?
La patience.
Parce que la patience, l'écoute de l'autre, c'est de l'amour. L'écoute de l'autre, c'est de l'amour. Je vous le dis, moi. Écoutez quelqu'un quand vous piaffez d'impatience pour dire « Et moi, attends, j'ai quelque chose à te dire aussi là-dessus. Tais-toi !» Laisse parler l'autre. Tu vois ? Eh oui, c'est tout un apprentissage, mais laisse parler l'autre. Et puis, surtout là, si le gars, il a du mal à mettre des mots sur son émotion, tu vois, le silence là, accueille le silence.
Amen.
Commence pas à dire, ah ouais, mais tiens, c'est comme moi, c'est ce qui m'est arrivé, moi. Mais l'autre, c'est fini, il parlera plus. Alors qu'il était en train de chercher les mots et puis il était mal. Et toi, tu y as juste dit, ah ouais, mais tu sais, moi aussi, ça m'arrive, ça, genre, mais c'est fini. Tu l'as perdu. C'est fini, il parlera plus. On verra, c'est tout un art la communication, c'est tout un art, tu comprends? Mais on est là, tranquille, il n'y a pas le feu, on n'est pas là à la pièce, là. Non, on a le temps, on prend l'apéro, tout ça, et puis l'autre parle, et toi chérie, comment ça s'est passé? Laisse-le parler, il était dans une famille où on ne parlait pas, il était dans une famille où on n'a jamais parlé de ses sentiments, et là tu lui demandes de parler de ses sentiments. Mais c'est un monde pour lui, c'est un univers complètement différent, tu comprends? Mais ça fait partie de tes besoins, tu as mis dans mes besoins, tu as mis, chérie, j'aimerais que tu me parles un peu plus souvent de toi, j'aimerais que tu me dises un petit peu plus ce que tu ressens, parce que des fois j'ai l'impression que je ne te connais pas, des fois j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui se passe en toi, tu vois? Donc, toi tes besoins, et tu dis, habitué le cœur orphelin, habitué à vivre tout seul, habitué à se débrouiller tout seul. Et puis là, il va falloir que j'explique tout ça. Ça va être chaud. Mais c'est ça l'intimité, mon gars. Vulnérable de ton cœur pour rentrer dans l'intimité. T'avais une parole ? Ah, bah, c'est trop chaud. Jean-Noël, tu veux dire quelque chose ? C'est bon, on va arrêter là.
C'est la carapace qui bloque.
Oui, c'est la carapace qui doit se fondre. Tu comprends?
Mais ça va fondre.
Mais c'est toi qui vas la fondre.
Moi, par exemple, j'ai des besoins. Oui. On parle plusieurs fois, les besoins, je mets la solution en place.
Oui.
Non, c'est pas comme ça.
Mais qui dit pas que c'est pas comme ça?
Non, la personne en face dit que...
C'est moi.
Rassure-moi. Je commençais à me dire, bon, il y a peut-être quelqu'un qui est caché dans le coin, c'est pas grave.
Non,
la femme est là, c'est bon.
En fait, moi, c'est le besoin, mais oui. Elle dit non, c'est...
Non, il n'y a pas de non-non. Non, mais justement, là, il n'y a pas de non-non.
Le côté buté.
Non. On est là pour travailler pour le coup. On trouve des solutions. Si on commence par dire non, barrage, ben, l'addition, s'il vous plaît, on rentre à la case. Non, c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. On est là, en fait, dans l'esprit, il faut vraiment partir avec l'esprit, on travaille pour notre couple. Si tu ne fais pas ça, c'est mort. Tous les deux, on cherche des solutions pour notre couple.
Bon. Ça va fumer ce soir.
Ça va? Ça va? Vous êtes encore là? Bon, vendredi prochain, on continue. Vendredi prochain, on va regarder en détail le cœur à cœur. D'accord? On va regarder en détail le cœur à cœur. Mais là, déjà, vous avez le programme.